Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Justine Moussaou.
La ville de Kinshasa a connu une ambiance particulière hier lundi. De très longues files ont été observées dans les stations-service. Les automobilistes craignant une éventuelle pénurie d'essence, le ministre des Hydrocarbures, lui, se veut rassurant. Il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays, dit-il. Adoption hier du plan stratégique national de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ces plans constituent la feuille de route pour l'opérationnalisation du PDDCRS. Et pour parler de la situation hier dans les stations-service, nous recevons le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, nous dira ce qui s'est réellement passé et les mesures prises pour un retour à la normale. Bonjour à tous. À Kinshasa, difficile de s'approvisionner en carburant, particulièrement en essence depuis le week-end. Plusieurs stations-service ne vendent pas ou alors uniquement du gasoil. Suite à cette difficulté, une réunion s'est tenue hier lundi entre les pétroliers et le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Le ministre Didier Boudimbou rassure qu'il n'y a pas pénurie de carburant en République démocratique du Congo en ce moment. Plus de détails avec Jean-Francis Mouya.
La difficulté d'approvisionnement en carburant au sein des stations-service est une situation très inquiétante pour les conducteurs ainsi que les usagers de la route à Kinshasa. C'est notamment le cas à Bandalungwa dans une station où un taximen trouvé sur place exprime son ras-le-bol. Depuis hier, nous ne travaillons pas. Je suis entré dans une station à 15h pour en ressortir à 17h. On est même obligé d'ajouter 1000 francs sur le montant à payer lorsqu'on doit acheter du carburant. Si tu ne rajoutes pas 1000 francs pour le pompiste, tu ne seras pas servi. S'il n'y a pas une solution d'ici demain, nous n'allons pas travailler.
Afin de taire toute rumeur sur une éventuelle pénurie, le directeur général de la société pétrolière SEP Congo éclaire l'opinion et dément toute information allant dans ce sens.
C'était à l'issue d'une réunion tenue ce lundi 4 avril entre quelques pétroliers ainsi que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou.
Il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et donc les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça atterrit les stocks dans les stations. Mais ce problème-là, il est un peu dépassé.
Il s'est de noter qu'aucune hausse de prix n'a été déclarée par les autorités pour les différents produits pétroliers.
La situation de pénurie de carburant inquiète au plus haut point le Sénat. Par une motion d'information au cours de la plénière d'hier lundi, la sénatrice du FCC Francine Muyumba exige du ministre des Hydrocarbures des explications claires sur ce manque de carburant, notamment dans la ville de Kinshasa, tout en promettant de convoquer le ministre concerné dans les jours qui suivent. Le président du Sénat note tout de même que le baril du pétrole est passé de 35 dollars à plus de 120 dollars sur le marché international et s'est dit favorable à la tenue d'un débat franc sur le prix du carburant en RDC. Suivez le point de Michel Kifindangoy.
Dans sa motion d'information, la sénatrice Francine Muyumba s'insurge contre la pénurie du carburant dans les stations-service ce lundi, occasionnant ainsi des conséquences incalculables sur le social de Congolais. Francine Muyumba.
Y a-t-il pénurie du carburant? Y a-t-il hausse des prix? Pendant que la SNEL peine à fournir l'électricité de manière permanente, les hôpitaux fonctionnent à l'aide du carburant, les groupes électrogènes. Ceci peut conduire à des pertes en vie humaine.
En réaction, le président du Sénat stigmatise la politique du gouvernement de bloquer le prix du carburant en RDC et plaide pour un débat franc sur la question de prix en RDC. Modeste Baatilukwebo.
Le prix qui était jusque-là d'application était basé sur 35 dollars le baril. On était à 109 il y a de cela deux semaines. Je crois qu'on approche 120 dollars le baril. Ce carburant, nous ne le produisons pas ici. Nous devons l'importer, nous devons l'acheter. Vous savez, quand on n'a pas de carburant, tout risque d'être paralysé.
Modeste Baatilukwebo encourage Francine Muyumba à saisir le bureau du Sénat par écrit afin d'inviter rapidement les ministres concernés avant que le pays ne soit totalement paralysé par manque de carburant.
Toujours au Parlement, une nouvelle motion de défiance contre un membre du gouvernement sur la table du président de l'Assemblée nationale. Après le ministre de l'économie, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est visé par une tentative de défiance de la part de 77 députés signataires de la motion. D'après le député Didier Lutundula Okito, initiateur de la motion, le ministre Daniel Asselo devrait déposer sa démission avant même d'être convoqué à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette motion pour notamment immixtion dans les affaires internes des assemblées provinciales, dans l'instabilité des provinces, mais aussi des cas d'insécurité. Didier Lutundula Okitu, élu de Bukavu sur la liste de l'AFDCA, est au micro de Michel Kifindangoy.
Les signataires de la présente motion de défiance estiment que le ministre a failli à sa mission de protéger la population et ses biens, et cela sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Secundo, comme ministre de l'Intérieur, le VPM s'est substitué l'autorité et d'exécutifs provinciaux et des assemblées provinciales en s'ingérant ainsi dans le fonctionnement des institutions provinciales, causant l'instabilité institutionnelle dans plusieurs provinces du pays, notamment au Sud Kivu, Bas-Congo, pour ne citer que celui-là. Le VPM est allé plus loin jusqu'à surseoir la tenue des plénières des assemblées provinciales, usurpant ainsi les pouvoirs du chef de l'État et du premier ministre selon les cas.
Notez qu'au cours de la plénière d'hier lundi, le sénateur Évariste Boshab a aussi plaidé pour l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur pour qu'il s'explique devant le Sénat sur les multiples problèmes déplorés dans son secteur. Le PDDRCS, Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, prend de plus en plus forme avec l'adoption hier lundi du plan stratégique national de sa mise en œuvre. C'était lors d'une importante réunion du comité de pilotage autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Divers partenaires nationaux, internationaux et bailleurs de fonds ont présenté leur vision, approche et garantie pour un soutien à ces processus, gage d'une stabilisation et pacification de la partie est de la RDC. D'autres détails avec vous, Billy Yvon Lutumba.
Ce plan stratégique national, l'explique Tommy Tambwe, coordinateur du PDDRCS, constitue la feuille de route pour l'opérationnalisation du programme. À travers lui, la visée est de parvenir à un relèvement communautaire, la relance économique, la cohésion sociale et la stabilisation de toute la partie est de la RDC. Au président de la République et président du comité de pilotage d'insister sur le mode de gestion de la stratégie nationale validée ce jour.
La stratégie nationale fait de la décentralisation, la responsabilisation, la transparence et la redevabilité les principes sacro-saints de son mode de gestion. Le choix de ces principes répond, outre à la devise de travail du PDDRCS, à savoir pour la communauté, avec la communauté, dans la communauté et par la communauté.
Pour la matérialisation de ce PDDRCS, l'Union européenne, l'Union africaine, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont unanimement garanti leur soutien pour le bien-être des communautés longtemps meurtries.
Pour sa part, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC recommande la prudence et l'attention quant aux candidats éligibles à ce programme. Madame Bintou Keïta promet également la disponibilité des Nations Unies à soutenir le gouvernement dans la matérialisation de ce programme. On l'écoute dans ses propos recueillis par Billy Van de Toumba.
Les attentes des communautés sont grandes et le PDDRCS a fait naître des espoirs de paix. Et je lance vraiment un appel du cœur pour que les espoirs de paix ne se transforment pas en désespoir. Il est très important de faire la distinction entre les individus qui sont prêts à se rendre, à renoncer à la violence et à intégrer une vie civile, et ceux qui continuent de s'inscrire dans la violence contre l'État et contre les communautés. Les combattants capturés ne peuvent pas être éligibles au PDDRCS. Et on veut vraiment insister sur cet aspect parce qu'au fond, ce dont on a besoin, c'est un processus volontaire. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté ceux qui sont les combattants capturés, ni de les oublier. Mais nous pensons que c'est important que les combattants capturés doivent suivre des parcours différents afin de renforcer justement ce qui est central, c'est les objectifs stratégiques de stabilisation. En tant que Nations Unies, nous sommes prêts à appuyer le gouvernement à développer ses capacités pour traiter des cas spécifiques selon les normes juridiques nationales et internationales.
Également dans l'actualité, célébration hier lundi 4 avril de la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. À Goma, les organisations œuvrant dans la lutte contre les mines et les engins non explosés ont évoqué unanimement les défis sécuritaires auxquels ils font face dans les opérations d'identification des zones ou dans les sites pollués. Ils ont par la même occasion évoqué les difficultés liées au manque de financement qui limitent selon eux, l'exécution et l'accomplissement de leurs objectifs des nettoyages et redéminages dans les zones post-conflit qualifiées de haut risque, comme l'explique la chargée de programme du service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, Mel Aurélie Fabry, au micro de Gabriel Omenia.
La sécurité, donc c'est l'accès à ces zones qui sont parfois qui ne sont pas du tout sécurisées. Donc gérer l'accès en termes de logistique également. Parfois il faut des escortes pour pouvoir accéder à la zone. Donc tout ça a des répercussions sur en fait notre flexibilité et notre capacité de réaction rapide. L'accès aussi en termes de routes. Parfois certaines zones sont accessibles que à moto, donc ce qui retarde aussi le déploiement de nos équipes et parfois aussi quand c'est la saison des pluies, quand il pleut, le terrain bouge un peu, etc. Donc par exemple l'engin qui a été reporté peut parfois bouger de quelques mètres. Donc mais je dirais que le plus grand enjeu, c'est surtout dans la province du Nord Kivu, c'est la sécurité.
Rappelons que la Journée internationale de la lutte anti-mine de cette année a été placée sous le thème des pas sûrs, des terrains sûrs et des maisons sûres. En Ituri, les mines et engins explosifs constituent encore un défi majeur pour la population de cette province où plusieurs groupes armés sont encore actifs. Environ 10 personnes sont mortes en 2021, notamment dans les territoires d'Irumu et de Djougou. Ce constat est fait par les organisations anti-mines, également à l'occasion de la Journée internationale de lutte anti-mines célébrée hier lundi. Selon ces organisations, la population doit être informée à l'identification des mines antipersonnelles pour prévenir d'autres conséquences fâcheuses dans ce contexte d'insécurité dans la province. Isaac Rémo.
La situation des mines et engins explosifs est très préoccupante, surtout en territoire des Rumu, notamment dans la chefferie de Walindu Bindi. Selon la société civile, 3 enfants sont morts l'année dernière au village Isura. Gabriel Androzo indique que la présence de ces mines a réduit la mobilité des habitants dans les champs. Il demande aux services spécialisés d'approfondir les recherches pour identifier ces engins et prévenir de nouveaux dégâts.
Au temps de guerre à la chefferie de Walindu Bindi depuis plusieurs années, comme on a découvert des mines ici, les gens ne veulent même pas entrer en fond de la brousse et ils ont peur. Il y a eu des enfants qui étaient morts.
En chefferie de Bahema Boga, toujours en territoire d'Irumu, des dégâts ont été également enregistrés. Une grenade découverte dans la cour d'une maison a tué 2 enfants au village de Kinyanjojo. Le président de la société civile indique que les risques restent permanents à cause de la présence des ADF dans la région, Albert Baseki.
Comme la zone a été occupée à cette époque-là, c'est juste les ADF et ses alliés qui étaient très actifs et jusqu'à présent ils sont encore actifs dans la zone. Ce sont eux qui avaient laissé ça.
La ville de Bounia et sa périphérie n'est pas également épargnée par cette problématique des mines antipersonnelles qui ont été découvertes au quartier Ngezi et à Rwampara. Face à ces défis, l'ONG Groupe Action contre les mines pour le développement durable sensibilise la population pour la prévention des dégâts. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les frais de l'enseignement à distance au centre d'une controverse dans le Congo central. Certaines personnes projettent d'organiser des manifestations pour pousser les parents à ne pas payer cet argent qu'elles considèrent comme une escroquerie organisée par des responsables d'école. Il n'en est rien, affirme le directeur de la province éducationnelle Congo central 2. On l'écoute au micro de Nana Plourich-Mambou.
Les frais de l'enseignement à distance, beaucoup de gens pensent que ça provient des directeurs provinciaux. Non, les frais de l'enseignement à distance, ça se retrouve dans la note circulaire signée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et entérinée par le gouverneur des provinces. Nous, nous sommes les exécutants au niveau de la base. Nous devons faire tout pour que l'enseignement à distance soit mis en œuvre. Vous êtes en train de voir aujourd'hui que dans nos provinces, nous avons reçu des délégués du niveau national. On est en train d'installer les matériaux dans toutes les écoles qui sont en ordre avec l'enseignement à distance. Et ça a une très grande importance. C'est une innovation de notre pays. Des innovations qui se retrouvent dans notre pays, nous pouvons aussi amener ça ici chez nous. Où le professeur peut être en voyage, il peut dire aux enfants, vous pouvez vous connecter sur notre site, je vais loger là-bas des matières. Et les enfants ne peuvent pas chômer. Les gens qui pensent que l'enseignement à distance, c'est l'escroquerie, et c'est par manque de connaissances. Nous disons aux parents de soutenir cette innovation, c'est quelque chose qui est très très important.
Actualité internationale. Alors que la guerre en Ukraine a franchi un tournant avec la découverte des centaines de cadavres de civils dans des villes récemment évacuées par les troupes russes, les capitales occidentales prennent des nouvelles mesures contre Moscou. La ministre allemande des Affaires étrangères a ainsi annoncé hier lundi la prochaine expulsion d'un nombre élevé de diplomates russes en poste à Berlin en lien avec la guerre en Ukraine. Selon des informations obtenues par l'agence France-Presse, leur nombre s'élève à 40.
L'invité.
Après une folle journée hier, lundi, caractérisée par une carence en carburant sur toute la ville de Kinshasa, Radio Okapi a approché en fin de soirée le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Dans cet entretien avec Billy Van Lutumba, le gouvernement à travers ce ministère explique ce qui s'est réellement passé et les mesures prises.
Monsieur le ministre Didier Boudimbou, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Billy.
Kinshasa est en effervescence, pas positive, mais négative parce que il n'y a pas de carburant. Tout le monde se plaint. Les gens n'ont pas pu se déplacer correctement aujourd'hui. Comment est-on arrivé à cette situation aujourd'hui?
Il y a eu un problème logistique, un problème technique au niveau de la distribution, par CEP hier, et c'est ce problème-là qui a fait que, avec la spéculation qui a suivi, il y a des gens qui ont fait croire qu'il n'y avait plus de stock, alors qu'il y en a, certes, on n'en a pas des masses, mais on a assez de stock pour pouvoir tenir, pour pouvoir servir la population. Donc les gens se sont rués au niveau des stations, ils ont commencé à prendre des quantités hyper importantes, parce que nous sommes quand même une ville d'à peu près 14 à 15 millions d'habitants. Donc si les gens avaient des habitudes d'acheter 5 litres par jour ou 10 litres, si les mêmes personnes changent d'habitude pour aller en acheter 200, 300 parce qu'ils ont peur pour essayer d'amagasiner, de garder chez eux pour éviter qu'il n'y ait jamais à pénurie et qu'eux puissent avoir des réserves. Donc c'est normal que les stations à un moment puissent être vides. Mais bon, heureusement que nous avons encore du stock. Donc là, les camions de CEP sont sortis. Ils sont en train de servir les stations. Ils vont continuer encore toute la nuit. Et je pense que d'ici demain, la situation va revenir à la normale.
Eh bien, qu'est-ce qui a fait assez que CEP puisse amener toute une ville, la capitale d'une république à cette situation?
Non, CEP n'a pas emmené. C'est que, comme je dis, il y a eu de la spéculation parce que les quantités qui étaient là pouvaient servir tout le monde. À part spéculation, il y a eu intoxication des informations. Les gens pensaient qu'il y avait pénurie et qu'il y allait avoir rupture de stock. Donc les gens sont partis vider les stations. Alors qu'hier c'était dimanche, donc les camions ne sortent pas vraiment dimanche. Les gens sont partis vider les stations. Donc maintenant il faut refaire un grand travail. C'est ce qui est en train d'être fait. Et malheureusement, on n'est pas aussi aidé par certains gérants qui demandent 5000 francs de plus pour pouvoir vendre. Et je pense que les DG de ces sociétés commerciales ont été saisis et ils vont être vraiment sévères par rapport à ce genre de comportement. Et
Monsieur le ministre Didier Boudimbou, on vous entend depuis quelques semaines, vous êtes vraiment très confiant que la RDC a un stock suffisant pour approvisionner la population. Pendant ce temps, nous savons que à travers le monde, il y a une pénurie de carburant. Qu'est-ce que la RDC a fait pour avoir son stock normal, comme vous le dites là?
Le gouvernement congolais, juste pour le mois de mars, va supplier près de 42 millions de dollars pour que le prix ne baisse pas la pompe. Ce gouvernement, avec les 42 millions de dollars qui vont supplier, ils vont encore payer des manques à gagner aux sociétés pétrolières pour leur permettre quand même de pouvoir continuer à acheter le produit. Donc c'est plus par rapport à ça. Parce que si on devait revenir directement à la vérité des prix, le litre sera à 3500 francs et ça risque d'être très difficile par rapport au prix du transport et au prix des denrées alimentaires.
Mais à l'approvisionnement à l'entrée, comment la RDC n'échappe pas à cette pénurie?
Non, tous les pays du monde, ils connaissent quand même que voilà, c'est pas facile. Mais la seule chose est que si nos sociétés commerciales, s'ils ont de l'argent pour acheter le produit, il y a certains pays qui vendent le produit. Le Dubaï produit, je pense qu'il y a aussi les Nigeria, il y a le Cameroun, on pourra avoir de produits. C'est une question d'argent, de trésorerie et tous les pays qui s'organisent arrivent à l'avoir. Et comme je vous ai dit, comme il y a cet aspect social, D'où le gouvernement doit mettre peut-être chaque mois 42 millions, 30 ou 50 millions ou 35 millions pour pouvoir aider la population de façon que le prix ne puisse pas monter à la pompe. Donc c'est ça le grand combat.
La RDC, jusqu'à quand peut-elle tenir avant que la situation ne se normalise?
Le gouvernement travaille de façon qu'on puisse tenir jusqu'à la fin de cette crise et nous sommes en train de mettre des mécanismes pour que dans les jours à venir, par la situation, peu importe ce qui va se passer à travers le monde, que nous puissions être à l'abri. Parmi des stratégies, c'est là des appels d'offres dans des blocs pétroliers que nous avons et une fois qu'on pourra attribuer ces blocs-là, je pense qu'on pourra se créer une raffinerie et on pourra aussi avoir une autoconsommation de nos propres produits. Donc, ça pourra nous éviter tous ces problèmes.
Monsieur le ministre, vous avez aussi donné des garanties. Nous n'allons pas nous attendre à une probable hausse du prix du litre de carburant en RDC.
Non, je dis bien, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces jours, cette option n'est pas sur la table. Mais nous allons discuter, on va se concerter, le ministre des Finances et moi et le ministère de l'Économie. Et puis, bon, avec le Premier ministre, on va se concerter parce que si on doit voir la réalité en face et que s'il doit avoir une augmentation, ce sera décidé au sein du gouvernement. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Pour le moment, on ne s'est pas encore réunis sur ça. Donc, je préfère ne pas me prononcer sur ça pour le moment.
Et par rapport à ce qu'on a vécu, c'est quoi le message du ministre des Hydrocarbures à la population qui est en souffrance pour l'instant?
Au gestionnaire des stations de carburant, je leur demandais d'avoir du patriotisme et d'avoir le bon sens. Ça ne sert à rien de donner un prix imaginaire alors que le prix du litre n'a pas changé, c'est 2100 francs. Il faut maintenir ce prix-là parce que c'est à ce prix-là que ces sociétés-là achètent le carburant pour le vendre à ce prix-là et l'État doit payer le manque à gagner en fonction de ce prix-là. Et aussi, essayer de sensibiliser les gens pour que les gens puissent enlever cette peur-là de penser qu'il n'y a pas de carburant. Et à la population, je vais leur demander de pouvoir garder leur calme. Ça ne sert à rien de courir derrière les stations pour penser qu'il n'y a rien pour essayer d'avoir le maximum d'approvisionnement. Non. Tout est en train de rentrer dans l'ordre.
Monsieur le ministre, merci.
Merci, monsieur Bédim.
C'est sur ces propos du ministre des Hydrocarbures que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.